On va attendre que ce soit concrétisé. On a entendu toutes sortes de choses depuis quoi, une dizaine d'années dans l'entourage des Rays de Tampa. Mais Marc, tu voulais, toi, vraiment parler de cette situation-là et peut-être parler de la situation de Montréal aussi par la bande.
Bien, écoutez, premièrement, moi, cette nouvelle-là, je me dis, Alain, je ne veux pas rentrer le couteau encore dans la plaie puis le tourner, là. Mais je me répète, si on avait gardé les expos pour 100 millions de dollars en 2004, la franchise aujourd'hui vaudrait 1,7 milliard.
Au jeu! Deuxième prise! Compte complet!
Le balado Compte complet est présenté par Don Match à Boucherville et au Saguenay. Votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Et par les Capitales de Québec. C'est plus qu'accessible, c'est plus que du baseball. Voici vos animateurs, Alain Huzo et Marc Griffin.
Bienvenue à Compte complet, nous sommes à la fin du mois de juin. Alain Huzo en compagnie de Marc Griffin. Aujourd'hui à l'horaire, on va parler de la lutte dans l'Est de la Nationale. Les équipes s'affrontent pas mal, les Mets, les Phillies, les Braves d'Atlanta. On va regarder ce qui se passe de ce côté. On va parler des Braves aussi. On a perdu notre premier lanceur partant. On va parler des gérants qui sont peut-être sur la sellette, dont celui des Braves d'Atlanta, selon Marc. Et il y a aussi la vente des Rays. Qu'est-ce que ça signifie pour l'équipe? L'équipe qui continue de gagner malgré toutes les distractions entourant cette formation-là. Belle preuve de caractère. Également, on va parler du secret le mieux gardé dans le baseball majeur, Jeremy Peña. On vous en parlera, lui qui brille présentement avec les Astros de Houston. On va parler des Jays. La semaine des Jays, c'était correct. Pas très spectaculaire. On s'est pas mis dans le trouble, mais on n'a pas non plus joué de la grande balle. Puis on va revenir sur la transaction de Raphaël Devers parce que quand on en a parlé la semaine dernière, ça venait de se faire. Il y a eu d'autres réactions, dont celle de la haute direction des Red Sox de Boston. Donc voilà les sujets qui sont abordés lors de ce balado aujourd'hui. Marc, les Phillies, en ce lundi matin, ils sont premiers dans l'Est de la Nationale. Les Mets jouent pas de la grosse balle. Ça frappe pas, ça lance pas bien. En défense, c'est ordinaire. Puis les Phillies, eux, malgré l'absence de Bryce Harper, on a vu une équipe qui semblait, Marc, plus professionnelle. J'ai pas d'autres mots, là, mais présentement, c'est une équipe qui semble en business.
Écoute, Alain, c'est exactement ça mon point ce matin, durant ce balado, c'est de dire à quel point. Puis là, tu parles d'absence de Harper. Mais t'as l'absence d'Alvarez, c'est un gros morceau là, dans
Alvarado, c'est-à-dire?
Alvarado, exact. Alvarado ouais. Dans le. Bon, alors, moi, ce que j'aime de cette équipe-là, Alain, c'est que, tu sais, il y a une culture, il y a du caractère. Tu sais, Bryce Harper s'en va, tout le monde a levé son jeu d'un cran. Tu as vu comment aussi avec le petit dossier, la petite saga Castellanos, à quel point on a bien géré ça. Alain, il y a quelque chose de fort dans une équipe quand ça arrive. Moi, je vais dire, là, ce que je vois, c'est que les Phillies vont être difficiles à déloger. Là. Et évidemment, elles sont en tête par un match, mais je regarde ce qui se passe avec les Mets, ça semble plus fragile. Il y a quand même des bons vétérans dans cette équipe-là, mais la culture, c'est un petit peu plus fragile, là, à savoir, comment on va s'en sortir, puis est-ce que c'est la faute d'un, la faute de l'autre. Je le sens pas mal plus là, du côté des Phillies en ce moment. Puis, écoute, tu regardes l'affiche sans Bryce Harper, Harper peut prendre bien son temps pour revenir au jeu. Là. Non, mais tu sais, à ce point-là, fait que je trouve ça fantastique. Oui. C'est sûr que à long terme, il faut qu'Harper soit de retour. Tu comprends? On peut pas.
Ben oui.
C'est sur une longue période, mais je trouve. Puis, tu le sais, Alain, David Dombrowski à la tête de la direction baseball. On va probablement être une équipe qui va bouger cette année. On est dans le coup. On vise. Tu as parlé en début de saison de l'âge de cette équipe-là, que ça te faisait peur. Mais moi, je me disais, cette année, là, c'est peut-être, je dirais peut-être la dernière année, mais certes, il y a des joueurs autonomes qui s'en viennent. En tout cas, il y a un paquet de dossiers chez les Phillies. Mais pour l'instant, on semble être vraiment cimenté dans cette équipe-là. Puis ça paraît sur le terrain.
Ça change vite, Marc. Il y a deux semaines, on s'inquiétait des Phillies. C'était pas sur une bonne séquence. Rappelle-toi, on en avait même parlé avec Alex Agostino. En fait, ça a été vraiment des montagnes russes depuis un mois là, chez les Phillies. On s'est sorti d'une très, très grosse séquence. Après ça, on n'était plus capable de gagner pendant une semaine. Et là, oups, on a gagné 9 des 11 derniers matchs pour se propulser. On a gagné quoi? C'est 7 matchs en l'espace de 10 jours. C'est comme quoi une mauvaise séquence, Marc, de la sorte. Comme on voit chez les Mets, faut pas t'en être trop pendant une saison.
Non, mais tu vas en avoir. C'est ça qu'il faut que tu réalises, que tu vas en avoir. Des mauvaises semaines, c'est plate, mais des mauvaises semaines, c'est 6 ou 7 matchs. C'est beaucoup. Mais ça reste que ça va arriver à tout le monde des mauvaises semaines. Les Mets, je veux dire, sur papier, Alain, bon, offensivement, ça devrait quand même bien aller. Il y a un petit peu plus de défis, là, certainement en relève. Il y a du renfort qui en vient au monticule, certainement au niveau des lanceurs partants. Mais moi, c'est ce que je m'attendais dans la division S. Je m'attendais à fait que ça soit une lutte à trois équipes là, avec les Braves. Ouais. Mais je regarde le rendement des Mets puis des Phillies. Écoute, c'est exactement là à quoi je pense que tout le monde s'attendait. Et ce qu'on veut, on veut une belle course dans cette division-là. Puis là, on en a toute une.
Oui. On va parler de la troisième équipe qui... Je serais supposé d'être là, c'est les Braves d'Atlanta. Marc, on a perdu Chris Sale sur un jeu en défense. Il a continué son match. C'est un match qu'on a présenté d'ailleurs. Côte fracturée. Jusqu'à quel point est-ce que c'est seulement ce qu'on appelle le hairline fracture? Si c'est ça, ça ne devrait pas être trop long. Ça peut être douloureux, Marc, une fracture aux côtes. C'est sur le coup, bon, l'adrénaline aidant, on a tous eu des blessures du genre où c'est le lendemain qu'on s'en est ressenti. Peut-être ce qui est arrivé avec Chris Sale. Mais toujours est-il que la machine tarde. En fin de semaine encore, contre les Marlins, on aurait pu gagner quelques matchs de plus. Non, on s'est fait jouer un tour. Je sais que les Marlins ne jouent pas si mal, là, mais compte tenu de la situation des Braves, tu ne peux pas retarder tant que ça le retour à une fiche de 5, ça.
Non, bien, on l'avait atteint à un certain moment donné, puis ça a coïncidé avec le retour d'Acuña Junior. Là, on se disait, bon, ben écoute, là, on se disait, rappelle-toi, là, en début de saison, on disait, si on peut maintenir un certain rythme avant le retour de Strider et Acuña Junior, là, après ça, on peut vraiment lutter avec les Phillies et les Mets. Moi, ça m'inquiète un petit peu, là. Tu sais, je regarde... T'sais, Olson va bien, mais c'est pas de Olson il y a 2 ans. Austin Riley va bien. T'sais, les gars jouent. T'sais, avec le retour d'Acuña Junior, là, tu regardes cette formation-là, puis tu dis, bon, mais on va marquer des points, mais on n'en marque pas tant que ça, finalement. Il n'y a pas de formation. Je sais qu'on en parle souvent là, lorsqu'on fait nos reportages à RDS, Alain, mais il y a des bas de formation qui vont mieux que d'autres. Ça va pas super bien non plus là, du côté des Braves. Ouais. En tout cas, on va parler tantôt là, des gérants, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, ça va peut-être prendre un petit coup de barre là, avec les Braves. Je ne vous dis pas là, que Snitker est responsable de tout ça, mais les attentes étaient très élevées. Là, puis on a travaillé fort pour le retour de Strider puis d'Acuña Junior pour justement ramener une formation qui a de l'allure. Oui, il y a eu des joueurs qui ont déçu, des gars comme Kelenic. Bon, on les aura même remplacés maintenant, mais déjà, regarde cette formation-là, on devrait, je dis bien on devrait, on va utiliser le conditionnel, mais on devrait jouer du bien meilleur baseball.
Écoute, on a gagné quand même 7 des 10 derniers matchs.
Oui.
Ça, c'est une chose. Et ça suivait, Marc. C'est ça qui fait mal, je pense, en partie, la fameuse malchance ou chance, dépendant de la façon dont tu vois les choses. On venait d'en perdre 5 de suite par un point. Tu sais, on a eu une séquence de 10 défaites de suite dans des matchs qui sont décidés par un point. Je veux dire, on peut blâmer, que ce soit la relève, le manque d'opportunisme, mais tu te dis, à quelque part, peut-être que si une balle avait mieux rebondi, une balle ou deux avaient rebondi de notre côté pendant cette séquence-là, on n'aurait pas eu une fiche aussi déficitaire. Donc,
c'est vrai.
Tu comprends? Moi, de ce côté-là, je pense qu'il y a lieu à être optimiste. Là.
Ce qui me saute aux yeux, moi, c'est le rendement à l'étranger. Les Braves d'Atlanta ont 13 victoires, 26 défaites à l'étranger.
Oui, ça fait mal.
Je veux dire, tu peux pas penser faire les séries avec une fiche de la sortie. On joue bien à domicile, c'est dans la moyenne du baseball. Là, mais 13-26 à l'étranger, ça devient difficile. Alors, il reste du temps, Alain. On approche là, la moitié de la saison. On y arrive presque, là, mais c'est ça. Il va falloir que T'sais, parce qu'Acuna va bien, là, tu le regardes frapper, le gars joue bien. Mais on n'a pas les Ozzy Albies de ce monde de l'époque. Tu le vois, là, c'est une contribution de tout le monde. Là. C'est pas juste qu'il y ait des fois un ou deux gars pour toute une saison.
Tu as laissé entendre tantôt, Marc, un coup de barre serait peut-être nécessaire. Souvent, ça veut dire changement de gérant. Il y en a deux qui ont perdu leur emploi depuis le début de la saison. Un, parce que l'équipe ne répondait plus aux attentes, c'est-à-dire les Orioles de Baltimore. L'autre, parce que la direction n'a peut-être pas fait son travail depuis X années. Puis là, finalement, on voulait juste calmer un peu les ardeurs des partisans des Pirates de Pittsburgh. Du côté des Braves, dans le cas de Ryan Snitker, ça ressemble à quoi? Je le sens pas en danger, vraiment. J'ai l'impression qu'il fait partie un peu de la direction qui va prendre des décisions qui s'imposent sur le terrain s'il y en a à prendre. Comme je le mentionnais, je suis pas sûr, moi, que la machine est si mal déréglée que ça. Là. C'est juste peut-être mettre un petit peu d'huile.
Ah, écoute, tu as raison. Snitker, c'est un gars qui fait des années, je veux dire, qu'Alex, ça fait 30 ans qu'il est dans l'organisation. Mais parfois, là, puis là, je dis pas que c'est ça, là, mais parfois, même le gérant lui-même va dire, écoute, je pense que pour le bien de l'équipe, je pourrais me tasser. Là, tu comprends, là, on pourrait même aller jusque-là, mais en fait, je dis simplement, là, j'ai rien entendu à ce niveau-là. Là. C'est juste que parfois, il y a comme un constat. T'es parmi, comme là, tu le dis, le personnel baseball. Mm-hmm. Mais il y a une équipe où, effectivement, on aurait besoin d'un petit peu d'énergie. On semble un peu à plat. Je le regarde jouer, puis effectivement, on gagne des matchs. On perd des matchs qu'on devrait pas perdre. Mais à un moment donné... Je sais pas, il y a une petite énergie, là, de petit niveau d'énergie que j'aimerais voir additionnel côté des Braves. Puis, je veux dire, tu sais, dans le sport, Alain, là, c'est souvent ça. Il y a un changement quelque part, puis on essaie de donner là, justement ce coup de barre pour donner de l'énergie. Moi, je pense pas non plus que ça va arriver, mais si ça arrivait, on serait pas surpris, le contenu de ce qui se passe. Puis le fait aussi, Alain, c'est un peu comme les transactions, ça. T'sais, si on attend la date limite des transactions, ben c'est correct, mais là, il reste juste 2 mois. Alors que si tu fais une transaction début juillet, pause du match des étoiles, tu peux avoir, mettons, un partant pendant X nombre de départs, tu peux avoir un gars. Fait que si tu as un geste à poser pour, je dirais pas sauver votre saison, mais presque, ben t'es mieux de le poser un petit peu plus tôt que tard.
Oui. Ouais, question de rentabiliser ta transaction le plus possible. Marc, congédier le gérant, comme je l'ai mentionné, ça peut être pour différentes raisons. On le veut avec Baltimore, Pittsburgh. Il y a une équipe, tu l'as mentionné la semaine dernière dans une chronique à RDS au 5 à 7. Tu as parlé de Washington. Je pourrais parler des Aces aussi. Deux équipes qui sont dans des situations qui se ressemblent, c'est-à-dire avec un paquet de jeunes. La progression n'est peut-être pas au niveau attendu. Les Aces, il ne faut pas oublier qu'ils ont joué 500 en deuxième moitié de saison l'année passée. Donc, c'était des attentes qui n'étaient peut-être pas disproportionnées. Du côté de Washington, là, les jeunes arrivent, Wood joue bien, Abrams, c'est pas si mal, sauf que le gâteau ne lève pas de ce côté-là. Est-ce que c'est dans ces deux cas-là, il y a un parallèle à faire? Et est-ce que les gérants, dans les deux cas, pourraient être en danger?
Ouais, écoute, c'est sûr que lorsqu'on joue sous les attentes, il y a toujours un point d'interrogation, là. Mais dans le cas des A's, je sais qu'on va parler éventuellement des Rays à notre balado, mais dans le cas des A's, encore une fois, le déménagement, on s'en va jouer dans un stade 3. C'est pas les excuses, Alain, mais moi, à chaque fois que je regarde un match présenté, soit évidemment des A's ou même ceux des Rays à Tampa, là, dans le stade, évidemment, d'entraînement des Yankees, je me dis, tu atteins les ligues majeures, parfois ta carrière, tu sais, dure pas longtemps, puis là, t'es comme, excusez l'expression, mais t'es comme pogné pour jouer dans un stade de ligue mineure. Il y en a sûrement qui réagissent pas super à ça. T'sais, ce sont des professionnels, puis on le met de côté, mais je vous dis, des fois, c'est peut-être pas évident. Fait que, je vais excuser un petit peu ce qui se passe avec les A's à ce niveau-là. Il y a des jeunes qui vont bien, là, je veux dire, y a effectivement, là, ça pourrait coller, ça pourrait être cimenté davantage, là. Puis peut-être que ça va arriver en deuxième moitié de saison. On verra bien du côté des A's.
Oui, tu peux permettre, Marc, du côté des A's aussi, le rôle de gérant, puis ça a été documenté. Le rôle de fonctionnaire, lui, il le remplit vraiment. C'est son rôle, je pense, spécifiquement avec les A's. Je te laisse aller pour le reste.
Bien, écoute, effectivement. Je pense que s'il y a une organisation qu'on peut, on est quand même pas mal sûr de Ben oui. Canada, c'est là. Côté oui. Washington, c'est parce que le directeur général, Mike Rizzo, qui est là-bas, oui. lui, il voulait bâtir une nouvelle culture. Je pense qu'il a fait des bonnes transactions, il a fait des bons choix au repêchage, ça s'en vient. Puis là, ben, tu voulais que Martinez fasse partie. Tu sais, de la solution, puis qu'ils puissent grandir avec cette nouvelle cuvée de jeunes. Je sais que la relation est très, ils sont très près l'un de l'autre, là, entre Martinez ouais. et la haute direction. Mais comme tu dis, le gâteau lève pas, il y a quelque chose. Est-ce que c'est ça que ça prend pour que les jeunes, est-ce qu'on va aller chercher un entraîneur différent, plus jeune ou plus actif avec les joueurs? Je ne sais pas, tu sais, c'est... Il n'y a pas de solution parfaite, Alain. Mais lorsque tu joues en deçà des attentes de la sorte, il y a quand même une responsabilité que tu as envers tes partisans, puis envers la stratégie que tu veux adopter. Puis on sait que parfois, ben, c'est des stratégies de 3, 4, 5, 6 ans. Ouais. Tu veux avancer dans ça, là. Tu ne veux pas reculer. Là. Alors parfois, ben, c'est ça. C'est peut-être là que les sans dire le mot panique, mais qu'on réagit pour faire bouger les choses.
Oui. Quand on fait le tour, est-ce qu'il y en a d'autres, Marc, qui pourraient être sur la sellette? Ça va nous amener à la question du jour éventuellement.
Ouais, oui, oui. Ben, écoute, tu sais, moi là, je sais qu'aussi on va reparler de la réaction de la haute direction des Red Sox de Boston, mais tu sais, Alex Cora, je sais qu'Alex Cora est en poste pour les trois prochaines années, là. Il a signé une extension de contrat l'année dernière. Mais je ne sais pas, je trouve que c'est une direction un peu spéciale à Boston. Je n'ai pas l'impression que le courant passe si bien entre la très haute direction, le personnel baseball, puis même à la limite les joueurs. Écoute, je suis pas dans le vestiaire, mais j'ai comme l'impression que ça ne coule pas tant que si bien que ça, là, contrairement à ce qu'on pouvait peut-être penser. Moi, je souhaite que du bon aux Red Sox. Là. J'espère que ça va bien fonctionner. Mais si ça ne fonctionnait pas, Alain, et avec la perte de Devers, avec les jeunes, si on a retourné Campbell, par exemple, si le développement d'Anthony ne se fait pas aussi bien qu'on souhaitait pour cette année, il faut faire attention. Là, c'est un marché là, qui est... On pardonne pas beaucoup, là. Fait que je dis pas qu'Alex Cora est en danger, mais si jamais, tu sais, on l'échappe ou la chaîne débarque complètement, bon, tu sais, sait-on jamais. Je le souhaite tellement pas, là. Moi, j'aime ça voir quand même une organisation qui fait, tu sais, OK, aux jeunes, let's go, c'est vous autres. Mais je trouve pas que c'est parfait ce qui se passe avec les Red Sox actuellement, là.
Oui, et faut ajouter, Marc, souvent, nouvelle administration, c'est pas le gérant qui peut-être que tu veux. Ça, c'est un autre aspect, Marc, dont il faut tenir compte dans un contexte comme celui-là. Ça nous amène à la question de la semaine présentée par Sylmar Autoville. C'est votre détaillant pour des pneus de voiture et de camions classiques et antiques. Je vous invite à consulter le www.sylmar.ca. Ben, quel gérant est à risque, le plus à risque de perdre son poste? On vous a lancé quelques pistes. Vous avez peut-être d'autres gérants, vous croyez, qui pourraient perdre leur emploi. Envoyez-nous vos commentaires pour aller sur notre page Facebook, facebook.com/comptecomplet-balado, ou directement sur notre site internet comptecomplet.com.
Amateurs de baseball, viens vivre l'expérience des Capitales au Stade Canac. Du baseball professionnel, une ambiance électrique, le tout dans un stade de baseball mythique au cœur de Québec. Billets sur capitaldequebec.com.
Alain, je prends quelques secondes pour souligner nos partenaires, nos principaux partenaires de ce balado. Évidemment, le plan de match, boutique et à Boucherville et à Jonquière. Tout pour le baseball, évidemment. Boutique en ligne aussi, c'est très populaire toujours. À Boucherville, cage de frappeurs, on peut s'entraîner, cours privés. Vraiment, plein de matchs, on les remercie. Et évidemment, les Capitales de Québec qui continuent de sur leur lancée dans cette saison 2025. On remercie donc les Capitales de Québec. Si vous voulez en savoir plus sur notre balado, connaître où nous regarder, où nous écouter, ben allez simplement sur notre site internet www.comptecomplet.com.
On va parler des Rays, Marc, hors et sur le terrain. On va commencer par parler de ce qui se passe à l'extérieur du terrain, l'équipe en vente. La valeur de l'équipe entre 1,5 et 2 milliards de dollars. L'équipe pourrait demeurer en Floride selon toute vraisemblance. On va attendre que ce soit concrétisé. On a entendu toutes sortes de choses depuis quoi, une dizaine d'années dans l'entourage des Rays de Tampa. Mais Marc, tu voulais, toi, vraiment parler de cette situation-là et peut-être parler de la situation de Montréal aussi par la bande.
Ouais, écoutez, premièrement, moi, cette nouvelle-là, je me dis, Alain, je ne vais pas rentrer le couteau encore dans la plaie puis le tourner, là, mais je me répète, si on avait gardé les expos pour 100 millions de dollars en 2004, la franchise aujourd'hui vaudrait 1,7 milliards. C'est, je veux dire, le calcul n'est pas très compliqué à faire. Là. Mm-hmm. C'est, je me répète encore, j'ai toujours été déçu de la vision des gens qui peuvent jouer dans les autres ces montants-là, là, de se dire, mm-hmm. bon. L'autre aspect, Alain, puis moi, je suis pas mal convaincu de ça aussi, c'est que le projet de Vilsœur, c'est sûr que, bon, on n'a jamais eu vraiment là, toutes les dessus, les dessous de cette entente possible-là. Mais t'es selon moi, il y a une couple d'années, donc déjà, si M. Bronfman dit, c'est-tu quoi, Stu Sternberg, qui est le propriétaire du côté des Rays, regarde, on s'entend-tu, on va apprendre cette équipe-là. Moi, je suis pas mal sûr que Sternberg, à un moment donné, va dire, regarde, tu sais, on... Autrement dit, je pense qu'on a raté vraiment notre dernière chance. Je vais être un éternel optimiste, je vais toujours avoir ce petit côté d'espoir-là, mais moi, je ne crois pas là que, présentement, ce qui se passe avec les Rays va influencer... peut se passer à Montréal dans les prochaines années. Moi, je pense que le commissaire, le baseball majeur, veulent garder du baseball en Floride. Ne me demande pas pourquoi, là, mais ils veulent garder du baseball en Floride. Si Sternberg vend, ben ça va être soit Tampa ou soit qu'on va les amener à Orlando. Mais ça va rester dans selon moi, dans ces eaux-là. À la limite, il y a même Tennessee là, qui est tout près, là, ouais. Nashville, Tennessee.
Oui.
Donc, tu sais, bon. Puis il y a eu le dossier du Stade olympique qui est sorti, puis tu sais, c'est correct, mais moi, je ne crois pas à ces affaires-là. Honnêtement, là, je veux dire, je ne crois pas à ça. Il y a trop de virements de situation. Malheureusement, on a manqué notre chance avec les Rays. On tendra l'oreille éventuellement si jamais on est capable d'avoir une infrastructure qui pourrait permettre d'avoir une équipe. Mais je pense qu'il ne faut pas rêver en couleur en ce moment-là.
Oui, écoute, les choses peuvent changer rapidement. Puis moi aussi, Marc, on n'a pas de contrôle là-dessus, ça c'est clair. Là. Les choses peuvent changer. Et tant et aussi longtemps que Manfred va être là, Manfred, Marc, il ne détesterait pas avoir un club à Montréal. Ça, ouais. C'est y a plusieurs chroniqueurs réputés qui, au fil des années, Marc, voient Montréal favorablement. Le contexte, évidemment, change toujours. Donc, évidemment, si j'avais un certain contrôle là-dessus, Marc, ce serait facile pour moi de dire ça s'en vient ou non. J'en ai pas. Mais ce que je constate, c'est que oui, s'il y a quelqu'un qui disait ben Montréal, c'est une bonne idée, le baseball majeur n'est pas réfractaire à cette idée-là. Donc,
non.
Est-ce que ça va arriver? Regarde, les probabilités, je dirais, je ne suis pas sûr qu'elles sont très, très élevées. Mais je pense pas qu'elle soit à zéro non plus, parce que, comme je le mentionnais, les choses peuvent changer à plusieurs niveaux. Je parle pas juste sportif, Marc, mais sur le plan social, il y a des choses qui se passent dans le monde, que tu sais, depuis 10 ans, on le sait, là, qui peuvent influencer ce qui se passe dans le monde du sport professionnel. Donc, là-dessus, bien malin pour dire la façon dont même le sport professionnel, puis Marc, on est dans la diffusion, ça peut influencer ce qui va arriver pour la suite des choses.
Là. Absolument. Puis tu sais, Alain, j'aime pas ça vivre dans le passé, là, parce que bon, on n'a pas de contrôle là-dessus, mais il y a un certain moment donné, si quelqu'un achète et le Canadien, qui achète, ça vient avec le centre Bell, qui était à l'époque le centre Molson, et les expos, là, tout ça aurait coûté à peu près 400 millions. On est
maximum.
Pas loin?
Maximum.
OK. Imagine-toi aujourd'hui ce même propriétaire-là qui serait propriétaire et du Canadien et du Centre Bell et des Expos. Ça vaudrait combien aujourd'hui?
On parle de 3, puis c'est pas 3 millions, là, c'est minimum.
3 milliards, milliards.
C'est le minimum, puis je mettrais ça à 4, là, Marc. J'ai pas vu le dernier chiffre pour le Canadien, là, mais si les Rays valent 1,7, on peut penser que le Canadien vaut au moins ça. On peut parler du Centre Bell. Donc, on est très conservateur en parlant de 3 milliards là, pour les trois entités. Mais effectivement, pour 400 millions, tu aurais pu avoir les trois à la fin des années 90.
Bon, alors, moi ce que j'ai... Puis encore une fois, on fait un commentaire sur le passé, mais comment on n'a pas pensé que le sport pouvait pas générer une valeur à non seulement une franchise, mais à une ville. Et aujourd'hui, regarde la valeur que tout ça aurait. J'ai encore la misère à comprendre comment que ce soit une entreprise ou une personne ou quelqu'un, là, on dirait qu'on a toujours peur de foncer dans ces affaires. C'est sûr que c'est des gros chiffres, là, c'est pour mon argent, facile à dire.
Oui.
Mais en même temps, je me dis, tu sais, il y en a des joueurs qui jouent dans ces montants-là, puis il y en a qui investissent pour que ça, tu sais, qu'on je sais pas. Moi, ça me rentre pas dans la tête. Moi, ça va être l'énigme, là, de ma vie, c'est de pas comprendre cette affaire-là.
Et ce que tu dis là, Marc, faut remonter en 68, hein, l'année où les Expos ont eu la concession. Rappelle-toi, un après l'autre, les actionnaires qui avaient dit oui, en étant certain qu'on l'aurait pas le club, puis une fois qu'on l'a eu, ben finalement, ça me tente plus. Marc, c'est pas d'hier que ça arrive. C'est une mentalité, Marc, qui c'est pas facile de changer ces mentalités-là. Ça peut prendre des générations, puis je pense qu'on en a une bonne démonstration.
Là. En tout cas, de toute évidence, c'est plus qu'une génération, Alain. Là, ça traîne depuis... Alors, regarde, c'est correct. C'est juste que là, dans le contexte actuel, je trouve que c'est un petit peu plus difficile, là, surtout que le stade. Ouais. Si le stade olympique avait été rénové pour, tu sais, pour que le baseball puisse y avoir accès encore, tu regardes ce qui se passe avec les A's, on peut jouer une coupe d'année dans un stade olympique, puis là, mais là, on avait décidé que le stade olympique, il n'y avait plus de vocation baseball. Là, semble-t-il qu'on aurait changé notre fusil d'épaule. Tu sais, à quelque part, là, montrez-moi du sérieux, puis je vais y croire un petit peu plus.
Oui. Marc, parle-moi donc des Rays sur le terrain, toi.
Ben écoute, moi, je vais te dire, je suis tellement impressionné. Tellement impressionné. Puis je sais que les Rays savent qu'il faut qu'ils en gagnent pas mal plus en première moitié de saison, parce que le calendrier ne les aidera pas dans la deuxième moitié de saison, Alain, mais... Chapeau, là. Je veux dire, ça fait des années, là. Puis à chaque année, on se dit, ben, c'est-tu l'année où ça va être plus difficile? Puis mot, t'as dit, on trouve des gars qui mettent des balles en jeu, puis qui font les bonnes choses, qui jouent du bon baseball. Puis là, t'as un Brandon Lau qui décide cette année, ben ça débloque les coups de circuit. Tu sais, il est pas mal plus constant qu'il l'a été au cours des dernières années. On savait qu'avec le personnel de lanceurs partant, puis même à ça, il y a encore des absents. Tu sais, on était capable de rivaliser. Malgré les défis de jouer dans un endroit où on a juste changé les enseignes de Yankees pour Rays, je veux dire, c'est extraordinaire. Fait que, on parlait de culture des Phillies tantôt. C'est la même affaire chez les Rays. Les Rays, t'arrives là, tu sais c'est quoi ton rôle, tu sais c'est quoi le style, tu sais comment il faut qu'ils comportent sur un terrain de balle. Puis c'est magique. Et je te le dis, Alain, je m'attendais zéro à ça. Puis je suis impressionné, moi, par le jeu de cette équipe-là. Les gars jouent avec le couteau entre les dents, puis on y va, puis tant pis si vous êtes les Yankees, les Dodgers, peu importe, on s'en va, puis on va. J'adore ça.
Marc, je regardais globalement là, les trois aspects qu'on regarde, l'attaque, les lanceurs, la défense. Dans les trois cas, on est au-dessus de la moyenne du baseball majeur, le MPP+, la moyenne de points mérités plus, la défense. Et ça revient toujours à la même recette, Marc. Les Rays réussissent à obtenir le maximum des joueurs qu'on a sur place. C'est la recette. Puis même si on a perdu du monde en cours de route, je pense à Friedman avec les Dodgers, qui a hérité de cette recette-là, en plus d'un portefeuille pas mal plus épais. Shane Bloom qui est parti, qui arrivait des Rays. On a perdu des gros morceaux au deuxième étage et pourtant on réussit à perpétuer quand même ce niveau d'excellence chez les Rays. Tu sais, on dit que le baseball est c'est le plus individuel des sports d'équipe, mais eux autres, c'est comme si, tu sais, je me souviens quand Tyler Glasnow était avec l'équipe, puis disait, bon, là, il était avec les Dodgers, il est bien content, mais à l'époque, il était avec les Rays, il dit, on est fiers d'être capable de déjouer les pronostics.
Moi, Alain, je crois beaucoup à la culture d'une organisation, puis c'est exactement ça ce que tu dis, c'est que là, nous autres, on n'a pas les moyens ailleurs, on a un paquet de défis que les autres n'ont pas, mais il y a quelque chose lorsque tu mets l'uniforme sur le dos, On croit en des jeunes, on donne la chance à des jeunes de se faire valoir. Il y a quelque chose. Puis ça, Alain, c'est très fort. Tu l'as dit, malgré le fait que Joe Maddon avait commencé un peu cette histoire-là. Puis là, on a dit, est-ce que Kevin Cash va être capable? Ben, Kevin Cash le fait, puis non seulement il le fait, mais il l'a amélioré en plus, ou a amélioré cette culture-là. On a changé de personnel de direction. Puis malgré tout le succès des autres, personne n'a réussi vraiment, selon moi, à copier carrément cette culture-là. Là. On est... chapeau à ceux qui gardent ça. Puis comme j'ai dit, on va en avoir besoin parce que là, c'est un Canary qui n'est pas facile, qui s'en vient. Beaucoup de matchs vont être joués à l'étranger là, pour les Rays en deuxième moitié de saison. Mais Alain, je sais que Kevin Cash est toujours parmi les choix, parmi les gérants de l'année. Mais pour cause, j'aimerais beaucoup, beaucoup être dans le vestiaire de cette équipe-là. Sentir qu'est-ce qui se passe, là, comment ça se passe, comment Kevin Cash réagit avec ses joueurs ou... Puis regarde, tu sais. Parce que s'il y a une constante, Alain, c'est le personnel d'entraîneur. Là. C'est le même personnel d'entraîneur depuis un sacré bout de temps. Puis quand tu arrives dans cette équipe-là, ben tu sais exactement ton rôle. Alors, ça fonctionne. Assurément, la recette fonctionne.
Il y a un joueur dont tu voulais me parler, Marc. C'est celui qui est deuxième pour le WAR dans la Ligue américaine. Judge est premier. Il est tout seul. Il est à 5.8 en ce lundi matin. Le deuxième... C'est Jeremy Peña des Astros de Houston. Je regardais, Marc, c'est le seul joueur de la Ligue américaine qui est dans le top 5 dans le WAR offensif et dans le WAR défensif. Dans les deux.
Ben, écoute, Alain, on regarde les statistiques parfois, moi puis toi, puis la saison de Cal Riley, puis il y a des gars qui ont des saisons extraordinaires, mais whoops, là, t'as Jeremy Peña qui apparaît comme le deuxième dans l'américaine. Puis comme ce que tu viens de mentionner, fait qu'il faut donner un peu d'amour à un gars de même. Puis là, tu redis, ben pourquoi les Astros dominent encore dans la division ouest de la Ligue américaine alors que les Mariners, on avait l'impression que les Rangers, c'était peut-être plus difficile avec les Astros compte tenu de, bon, départ de Bregman, puis Alvarez qui est blessé, puis bon, Tucker qui est parti. Ben non, Jeremy Peña a décidé, lui, qu'il prenait ça en charge. Puis, tu sais, je pense qu'il faut juste souligner l'apport, puis tu le dis, autant à l'attaque qu'en défense on rappelle-toi ses débuts, là, je veux dire, on savait qu'il y avait beaucoup de talent, mais coupé dans les retraits sur des prises, et tu sais, je veux dire, il s'est adapté, mais il s'est adapté pour le mieux, puis je pense qu'il faut juste souligner un gars comme ça, à la saison extraordinaire qu'il connaît, puis qui est en train d'amener son équipe encore une fois, à une autre présence en série.
Oui. Ben écoute, ta ligne de centre, Marc, ça dépend qui tu mets au deuxième. Quand Brendan Rodgers est là, on ne frappe pas, mais on a une bonne défense. Si c'est Altuve, ben regarde, on va avoir de l'attaque. Mais bref, c'est pas parfait, mais à ton poste d'arrêt court, tu as quand même quelqu'un de solide. Myers, au champ centre, j'ai pas de problème avec lui. Même qu'à l'attaque, il est capable d'avoir de gros coups sûrs de temps en temps. Et les Astros, Marc, font tout ça avec plusieurs départs et l'absence de Jordan Alvarez, hein, quand tu vas revenir, ça va être encore la principale menace offensive de l'équipe. Dans l'équipe surprenante, je pense qu'il y a la chose, il faut quand même en tenir compte. C'est la carte de la semaine maintenant, qui est une présentation de cartes-union.ca, votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 60 000 articles en vente sur eBay, une cote parfaite de satisfaction à 100%. Marc, c'est la Saint-Jean-Baptiste, congé pour pas mal de monde en ce lundi et ce mardi également. Donc, on porte notre dévolu sur Roland Gadju, Jean-Pierre Roy, Stan Bréard de la collection Parade sportive Paul Stuart, de 43 à 48. Parade sportive, c'est quoi ça? C'est une émission de radio qui était diffusée à la fois sur plusieurs stations, mais CKAC, CKVL, Chef. Je ne sais pas si tu te rappelles de Chef à Granby, Marc. Ayant travaillé à la presse canadienne, Marc, je connais pas mal de stations en province, donc ça faisait partie du groupe. Mais à la fois, c'est KVL et c'est KAC, les deux qui ont marqué, évidemment, le personnage médiatique dans la région montréalaise. C'était des photographies, plus que des cartes, quoi, qu'une dimension 5 par 8 et un quart. Là, je parle de pouces. En centimètres, ça fait à peu près 13 sur 21. C'était des outils de promotion pour l'émission de Paul Stuart. peut-être l'ancêtre des amateurs de sport et de bonsoir des sportifs dans les années 40. Il y en a qui avaient des visions peut-être un petit peu avant. Il y avait 23 photographies de joueurs de baseball reliées principalement au Royal de Montréal ainsi que plusieurs joueurs de hockey. Et la carte la plus en vue du groupe pour les collectionneurs, ben, c'est celle de Jackie Robinson. Vous comprendrez pourquoi. Il n'y avait rien d'imprimé au verso. Faut bien rappeler que dans le cas de Jean-Pierre Roy et Stan Bréard, c'était des grandes vedettes au milieu des années 40. Jean-Pierre Roy et Bréard qui ont joué avec les Royaux en 45 notamment. Et par la suite, ils ont brillé les trois dans la fameuse Ligue provinciale. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur la Ligue provinciale, je vous invite à écouter ou regarder notre entretien avec Christian Trudeau, qui est peut-être la référence en ce qui concerne la Ligue provinciale. Donc, en l'honneur de la Saint-Jean-Baptiste et de la fête nationale, voilà nos cartes de la semaine avec messieurs Gladu, Roy et Bréard.
Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball.
C'est temps de notre section sur Baseball Bob, auteur de livres pour enfants avec le thème principal de baseball. Vous pouvez aller sur son site internet qui est le www.baseballbob.ca. Thème central du baseball. D'ailleurs, le quatrième livre de la collection est sorti récemment, Baseball Bob et le chant des tournesols. C'est une belle occasion de s'initier à la lecture, s'initier au baseball en même temps. Et on vous rappelle que la lecture a plusieurs facultés, dont celle, évidemment, de faire fonctionner votre imagination, surtout pour les jeunes. Belle façon là, de détendre nos connaissances. Notre profil de la semaine, Marc, on pourrait bien s'amuser un petit peu en disant que la Saint-Jean-Baptiste, on a choisi Ernest Clément. C'est Ernie Clement Blue Jays de Toronto. Ce serait pas surprenant qu'il ait des origines à quelque part francophone. Marc, il est originaire du nord de l'État de New York, de Rochester plus précisément, dans l'État de New York, et par la suite a joué son baseball universitaire à l'Université de la Virginie, avec laquelle il a gagné la Série mondiale universitaire. C'était en 2015 et l'année suivante, Marc, il a été le joueur le plus utile dans la Ligue Cape Cod. C'est probablement une des ligues universitaires d'été les plus relevées, Marc, aux États-Unis. Donc, il a fait son nom là. C'est un choix de quatrième ronde. Il n'a pas le physique, Marc, d'un gars qui est super puissant, mais c'est quelqu'un qui s'est distingué. On le voit bien avec les Blue Jays de Toronto. Travaille fort pour exploiter ses talents au maximum. Il a, quand il est arrivé avec les Blue Jays de Toronto, Marc, le poste qu'il a gagné, en fait, il l'a fait aux dépens de qui? Tout est dans tout. Toto Lopez. Rappelle-toi, Toto Lopez était avec l'équipe. Les deux visaient ni plus ni moins le même poste. Et finalement, Toto Lopez, regarde, les choses ont bien tourné pour lui. C'est un des bons joueurs de position avec les Marlins de Miami. L'an passant, 2024, c'était le meilleur joueur de position quand on parle du WAR. Bref, dans le cas de Ernie Clement, Marc, quand on regarde son pedigree, on se dit, avec Cleveland, se démarquait pas tant que ça, a pas joué beaucoup avec les Aces d'Oakland, et là, à Toronto, trouve sa place. Marc, qu'est-ce qui t'impressionne de plus dans Ernie Clement?
Ernest Clement, oui. certainement une belle polyvalence. Un gars qui peut jouer à multiples positions à l'avant-champ, des bonnes mains. C'est un gars qui est très agressif au bâton. Il aime se lancer très tôt. Il fait partie de ce type de joueur-là. Lorsqu'il rentre dans une bonne séquence, Alain, il devient très dangereux. Là. Tu vois là, qu'il empile les coups sûrs. Parfois, c'est un petit peu plus difficile. Genre de joueur, puis je sais, on a discuté un peu de ça lors de notre reportage de dimanche à la télévision, mais genre de joueur qui, tu sais, s'il joue tous les jours, à un moment donné, tu n'auras peut-être pas le rendement que tu souhaitais, mais si tu l'emploies bien, 3-4 fois semaine, tu as l'impression que tu vas avoir le maximum d'un gars comme ça. C'est un bon joueur à avoir dans une équipe. Peut voler des buts aussi, tu sais, peut faire les choses de la bonne façon. Et je pense qu'il joue. Il joue ce sport-là de la manière dont il doit se jouer, capable d'exécuter des choses. Belle valeur qu'il offre quand même aux Blue Jays de Toronto.
Marc, et là, je reviens sur son profil. 11 buts sur balle pour la totalité de la saison l'année passée. 11 cette année. C'est une amélioration, mais c'est quand même pas M. Busurbanes présentement. Puis tu dis, on l'expose, là, je veux dire, il joue à tous les jours. Il a 75 matchs de jouer, là, on est à la mi-saison. Il n'a pas raté beaucoup de matchs. Il frappe encore pour 300.
Ben, exact. Et, bon, je ne veux pas faire la comparaison avec Wilson du côté des Aces d'Oakland, qui, ouais. Bon, qui n'a à peu près pas de retrait sur des prises non plus et très peu de buts sur balle. Mais c'est ce type de joueur-là qui met la balle en jeu rapidement. Tu sais, on veut, là, dès les deux premiers lancers, d'agir comme la situation le propose. T'sais, si ouais. Un joueur au deuxième, je vais essayer de le faire avancer, je vais m'élancer tôt pour qu'il soit bon au troisième, au ballon sacrifice, peu importe. Des frappeurs donc très agressifs. Souvent, ces types de frappeurs-là, Alain, il n'y a pas beaucoup de buts sur balle.
Oui, effectivement. Puis, il n'y a pas beaucoup de retraits sur des prises non plus. D'ailleurs, sa dernière année universitaire, pour l'année au complet, en 58 matchs, marque 7 retraits sur des prises au total. C'est un des joueurs, bon, avec Wilson, puis certains autres, on pourrait mettre Arraez dans la nationale, là, mais qui sont le plus susceptibles de mettre la balle en jeu. Puis ce sont des joueurs en voie de disparition dans le baseball majeur. Ouais. C'est pas compliqué. Là. C'est, mais regarde, comme cinquième joueur d'avant-champ, Marc, écoute, je te dirais là, que c'est un luxe présentement. On en a vu en fin de semaine Edmundo Sosa avec les Phillies de Philadelphie. Ernie Clement, je pense, rentre dans cette catégorie-là. Puisqu'on parle des Jays, Marc, gros de la dernière semaine, on gagne la série contre les Diamondbacks, on perd celle contre les White Sox de Chicago. Ça peut être un petit peu décevant. Faut bien le mentionner, mais on est encore au cœur de la course pour une place en série. Scherzer revient cette semaine. Pour combien de temps? J'ai pas d'autres choses à te demander. Là, on ferait des séries si ça commençait demain matin. On a une avance d'un match et demi sur des équipes qui nous pourchassent. Tu sais, c'est pas parfait. Est-ce qu'il manque un partant, là, présentement, chez les Blue Jays?
Bien, c'est évident que Scherzer peut faire du bien, mais encore une fois, là, s'il revient, il va lancer, combien de manches? Il y a toujours une question lorsque Scherzer, revient au jeu. Ça va aider, ça, c'est certain. Oui, si tu avais à dire, à cibler, qu'est-ce que tu dois aller chercher, c'est certainement un partant, là, parce que c'est fragile en ce moment, là. Aussitôt qu'on sort... Et puis, on souhaite pas de blessure à personne, Alain, mais si jamais un Gausman ou un Berrios devait, pour toutes sortes de raisons, manquer quelques départs, là, on serait mal pris là, du côté des Blue Jays de Toronto. On voit que ça serait probablement l'urgence. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de l'espoir, de Vlad. J'ai regardé, Alain, ses statistiques en juillet l'année passée, juillet-août, là, c'est des mois où habituellement, Vlad, ça décolle son affaire. Là. Bon. Fait que, tu sais, on a toujours l'impression qu'on attend là, ce... Tu regardes Juan Soto semble être parti là, du côté des Mets. Là, je parle des gars qui ont des contrats de quelques dollars. Là. Il faudrait pour en donner plus, Alain, avec le contrat qu'il a, là, il faudrait qu'il en donne plus. Mais encore une fois, tu as de la part. Je regarde Barger va continuer de s'améliorer. Bichette devient joueur autonome, Alain. Si tu veux te donner un peu de valeur, là, ça va être le temps là, de. Mm-hmm. Et alors, Il y a des raisons de croire que ça peut bien se poursuivre du côté des Blue Jays, de rester dans cette course-là pour faire les séries. Là.
J'ai été souvent critique de Bichette, mais je dois dire, Marc, il fait partie des 10 premiers de la Ligue américaine pour la fameuse statistique que j'affectionne beaucoup, le win probability added. Donc, il a permis à son équipe, avec de gros coups sûrs, de gagner des matchs cette année. C'est lui qui s'est le plus démarqué à cet égard. Avec les Blue Jays dans toute la Ligue américaine. C'est pas Aaron Judge, Marc, c'est Cal Raleigh avec ses 31 longues balles. Il y en a quelques-unes là-dedans, évidemment, dans des moments qui sont importants. Puis la semaine qui s'en vient pour les Blue Jays, Marc, c'est deux séries importantes. S'agit de ne pas les échapper. Si on joue pour 500, on va être correct. Cleveland et Boston, ce sont deux adversaires directs dans la lutte pour une place en série comme meilleur deuxième.
Allons-y une série à la fois. On a échappé, tu l'as dit, c'est contre les White Sox. Je pense que là, il faut regarder. On a eu l'occasion dans le match de dimanche là, de marquer pas mal plus de points. Là, on n'a pas été opportuniste. Mais c'est ça. Des bons tests. Cleveland présente toujours de bons lanceurs. Toujours des tests pour l'attaque. Puis là, évidemment, lorsque tu affrontes une équipe de ta propre division par la suite, ça devient toujours intéressant. Mais tu sais, avant la pause du match des étoiles, là, moi, je m'attends à ce que ça se poursuive quand même là, du côté des Blue Jays de Toronto. Mais pense qu'il faut quand même surveiller notre ami Vlad, là, voir si ça, ouais, peut, si ça peut décoller cette affaire-là, parce que,
ouais,
si lui se met à frapper comme il, un peu plus, c'est pas mauvais là, ce qu'il est en train de faire, mais, mm-hmm, un petit peu plus, ça va déteindre sur tout le monde après là.
On va finir, Marc, en parlant de, en revenant sur la transaction de Verse. Il s'est dit, il s'est écrit pas mal de choses depuis cette transaction-là. Lorsqu'on a fait notre balado la semaine dernière, on a un peu analysé ce qui se faisait sans qu'il y ait eu les réactions, que ce soit de Deverse, de la direction des Giants et des Red Sox. Et ce que je retiens, Marc, de la dernière semaine, on sait qui est le patron chez les Red Sox de Boston, Marc, puis c'est Craig Breslow.
Oui, puis moi, je trouve que c'est pas un dossier qui met en valeur l'organisation des Red Sox. Là, on a beau dire que, on est une meilleure équipe sans Deverse, avec l'arrivée des jeunes, c'est correct, il y a des choses que tu dois dire au niveau des médias, là, mais on va se le dire, Alain, c'est pas été un dossier bien géré là, depuis le début, là, début du camp d'entraînement. Je comprends pas qu'en 2025, on soit rendu là. Ceci étant dit, je n'excuse pas, je veux dire, le caractère de Verge qui s'est dit, un instant, là, vous m'avez dit que je jouerais plus en défense, je joue plus en défense. Fait que, les deux côtés sont à blâmer là-dessus. Mais comme j'ai mentionné un peu plus tôt dans ce balado, oui, Breslow semble en charge, mais je sais pas, je sens pas la synergie tant que ça couler, là. Alors qu'on devrait être dans une ère où, on rappelle nos jeunes joueurs d'espoir, on a une bonne équipe, on est dans la course, on est capable de, mais je sais pas, il y a quelque chose qui cloche à ce niveau-là. Puis Deverse, lui, il se dit, j'ai un nouveau départ. Je m'en vais avec les Giants, puis bonne discussion avec Buster Posey. Puis... Fait que tu sais, lui, là, c'est sûr qu'il peut se dire, regarde, je change d'air, je m'en vais ailleurs, j'oublie là tout ce qui vient de se dérouler, là. Que j'ai eu tort ou non, là, je peux recommencer à zéro. Alors que les Red Sox, on peut pas dire faut recommencer à zéro, là. Faut travailler fort pour continuer. Donc, c'est ça. J'aimerais sentir, on a parlé de culture d'organisation tantôt des Rays et des Phillies. Les Red Sox, c'est moins imprégné en ce moment, là.
Oui. Et le parallèle que je fais, Marc, dans ce dossier-là, et j'ai pas pu faire, autrement que d'y songer, c'est celui de Manny Ramirez. J'ai l'impression là qu'on était rendu à un moment où, regarde, là, tu nous en as donné, là, mais à un moment donné, on n'est plus capable d'endurer tes caprices.
C'est un bon exemple. Mais en tout cas, on n'a peut-être pas tout le fond de l'histoire, ça reste que Deverse, à qui on avait décidé, Alain, parce que Bogart s'est parti. Il y a eu des changements, on a décidé d'offrir le contrat à long terme à Deverse. Mais ça ne veut pas dire, Alain, que lorsque tu dis « je donne mon contrat à un gars comme ça », que ce gars-là a la graine d'être un leader. Tu comprends ce que je veux dire? De prendre la place dans le vestiaire, de jaser, d'accueillir les jeunes. C'était pas ça, hein? C'était un gars qui était très, très dans son coin, un petit peu. Je dirais pas laisser à lui-même, mais... Il voulait peut-être pas toute cette attention-là aussi. Là. Oui. Fait que c'est pour ça que ça me surprend, Alain, dans le sens que l'organisation, puis lui, on était si loin de pouvoir trouver une manière où les deux, autant l'organisation que Deverse, pouvaient, mettons, là, exploiter chacun leur poste pour le bien de l'organisation.
Il y a un incident, quelque chose qui est arrivé au cours de l'hiver, Marc. Semble-t-il qu'Alex Cora voulait visiter Raphaël Deverse, aller le voir, un est à Porto Rico, l'autre en République dominicaine, discuter un peu justement de ce qui s'en venait, puis de ce que les Red Sox tentaient de faire, mais dans le cas de Deverse, une fois que la saison est finie, je ne suis pas le seul à le faire, les communications, c'est terminé. Moi, je ne parle pas de baseball, je ne veux rien savoir du baseball jusqu'au début du camp d'entraînement. Quand on t'a donné ce contrat-là, ça vient avec certaines responsabilités, Marc. Quand je disais, il y avait un côté Manny Ramirez dans... Tu sais, c'est un peu ça à quoi je faisais référence. Oui, à un moment donné, t'es payé pour jouer au baseball, mais regarde, est-ce que le contrat qu'on te donne vient pas avec autre chose aussi? Puis c'est peut-être pas ça. Tu sais, c'est peut-être qu'on a mal évalué la personnalité de Raphaël Deverse quand on t'a donné ce contrat-là aussi.
Ben, je pense que c'est là le problème, Alain.
Oui.
Comme j'ai dit tantôt, on l'a choisi comme le joueur de franchise, si tu veux. Mm-hmm. Mais il faut que tu le choisisses, ton joueur de franchise, dans le sens qu'il faut que tu dises, OK, mais lui, non seulement il va nous donner des points produits puis il va nous faire gagner, mais il va aussi créer une ambiance dans le vestiaire. Tu sais, Vlad, c'est un peu ça, Vlad Guerrero. Là. Vlad, là, c'est un gars qui prend de la place dans le vestiaire puis qui va jaser puis qui va aller accueillir un jeune. Tu sais, il y a des très belles qualités, Vlad Guerrero, même si parfois c'est pas parfait sur le terrain. Mm-hmm. Je pense qu'on on a mal. Je pense que tu as touché le point. On a mal évalué, peut-être. Mm-hmm. On s'était dit qu'il allait prendre de la maturité et qu'il allait prendre justement ce rôle-là, alors que j'ai l'impression qu'il ne l'a jamais pris.
Oui. Et qu'il n'en a jamais voulu, de toute façon.
Ou également, exact.
Oui. Ben écoute, avec les Giants, en tout cas en fin de semaine, ils ont gagné la série contre les Red Sox de Boston. S'est affronté l'un l'autre. Son premier circuit dans l'uniforme des Giants, c'était contre les Red Sox. Tout le monde est heureux, sauf peut-être évidemment les Red Sox en fin de semaine. Mais selon M. Breslow, les Red Sox vont en gagner plus sans de verre d'ici la fin de la saison. On l'espère pour les Red Sox, on l'espère pour Alex Cora. Trois matchs qu'on vous présente cette semaine. L'horaire des matchs à RDS, présentation de Lester, qui est le maître du smoked meat et des hot dogs depuis 1931. Un match, une soirée entre amis, un barbecue, festin en famille. Lester est toujours au rendez-vous, disponible chez votre épicier préféré. Tous les matchs qu'on vous présente cette semaine à RDS. On commence lundi avec un match Yankees-Cincinnati. Ça va bien pour les Reds. On verra Eli De La Cruz à l'œuvre. C'est pas le seul. Il y en a d'autres aussi qui vont bien du côté des Reds, dont Matt McLain. Il en a raté toute la saison dépensée, mais depuis un petit bout, ça va pas trop mal. Plus de responsabilités offensives pour lui également. Donc, à 19h, mercredi à 19h également, les Mets contre les Braves. Une série de quatre matchs, Marc, et c'est une série plus importante pour les Braves que pour les Mets, même si les Mets veulent se replacer. Les Braves ont besoin de victoires cruellement là, pour se replacer. Puis dimanche, c'est un duel entre deux équipes de la section centrale de la Ligue américaine. C'est assez rare, ça, un dimanche. On verra les Tigers de Détroit contre les Twins du Minnesota. Les Twins qui ont eu une très, très bonne séquence, mais depuis la blessure de Pablo Lopez, Marc, on manque notre locomotive. Puis en plus, Royce LeWitt s'est pas mis en marche. De ce côté-là, même si Byron Buxton connaît une excellente saison présentement, il y a des bons joueurs du côté des Twins, mais les Tigers, actuellement, une des meilleures, sinon la meilleure équipe dans la Ligue américaine. Donc, je vous rappelle, les trois matchs à 19h, lundi, mercredi, dimanche, les trois à RDS. J'espère que ce balado vous a plu. Merci beaucoup à Martin Villeneuve pour réussir à nous faire quelque chose techniquement à point. Marc, on se donne rendez-vous pour chacun des matchs. Quant à vous, amateurs de baseball, on se souhaite de la bonne balle et on vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.
Balado Compte Complet vous a été présenté par Plan de Match à Boucherville et au Saguenay, fiers partenaires de votre passion, et par les Capitales de Québec. C'est plus qu'accessible, c'est plus que du baseball.